Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous chopperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Alors dans les prochains épisodes de Aix, on va pas mal parler des secondes chances, on va parler du passé qui peut ressurgir, des choix qu'on a à faire en amour, de ce qu'on abandonne, de ce qu'on laisse sur la route. On va parler de ça parce que toute l'équipe de Aix a adoré le nouveau film de Stéphane Brisé qui s'appelle « Hors saison ». C'est un film qui est avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher et qui parle de ça, qui parle des amours passés, de ce qui nous en reste, de ce que ça a fait de nous. D'ailleurs, vous qui aimez les histoires d'amour, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ce merveilleux film. Alors nous, on a eu la chance de le voir en avant-première, mais sachez qu'il sort le 20 mars au cinéma. Alors tous ces thèmes, on va les retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui parce que quand on y pense, quelle chance quand même d'avoir une seconde chance. C'est vrai, avoir le droit de se tromper, pouvoir faire face deux fois au même choix, avoir l'opportunité de ne plus faire les mêmes erreurs, pouvoir faire mieux. Tout au long de l'histoire de Maëva, il y a cette possibilité-là. Revivre, refaire, recommencer, aimer de nouveau. Alors surtout, restez avec nous à la fin de l'épisode parce qu'on aura la chance, l'honneur de pouvoir parler d'amour, de nos amours passés avec Stéphane Brisé. Ce sera donc juste après l'épisode. Restez bien avec nous.
C'est en 2006 que je rencontre Alexandre. J'ai 22-23 ans. Lui, il en a 28. Et en fait, Alexandre est un ami de ma sœur et de ma cousine. Et en fait, ils faisaient souvent des soirées ensemble. Et moi, de mon côté, j'étais dans une histoire où ça faisait déjà 2 ans que j'étais avec cette personne-là. Et je sortais pas. Et à un moment donné, ma sœur me dit « Mais viens avec nous, ça va te faire du bien de sortir. On est un petit groupe de personnes. Voilà, donc viens avec nous, t'es jeune, sors avec nous. » Durant cette soirée-là, Alexandre arrive en retard. Moi, j'étais déjà arrivée avec ma sœur. J'avais déjà un bon tempérament. Donc, on était déjà en train de discuter sur un sujet et je donnais un peu mon avis. Alexandre arrive. Et là, je ne sais pas comment dire ça, mais des étoiles dans les yeux quand je le vois, des papillons dans le ventre. Franchement, je suis restée bouche bée. Il m'en fallait beaucoup pour que je me taise. Et en fait, lui est arrivé et je me suis tue d'un coup. Je l'ai regardé, on s'est dit bonjour et puis la soirée continue. Et lui de son côté, moi du mien. Donc, on faisait une première partie de soirée où on faisait un apéritif amélioré chez quelqu'un et après, on allait sortir dans un bar pour pouvoir danser. Et durant toute la soirée où on a fait l'apéritif, moi, j'étais dans mon coin en train de discuter. Et lui, de l'autre côté, mais on se jetait des regards sans trop non plus à pouvoir discuter. Et quand on va dans le bar, c'est là, en fait, où on s'est rapprochés et on a commencé à discuter l'un et l'autre ensemble. Alors, c'est un grand garçon, il fait un petit peu plus d'un mètre 80, brun, avec de la prestance. Voilà, en fait, quelque chose qui dégageait quand il est arrivé dans cette pièce. Je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est pas le style d'homme sur lequel je me retournais à l'époque. Mais quand il est arrivé, je trouvais quelqu'un de sûr de lui, très souriant, très déconneur. Et en fait, c'est ça qui m'a plu chez lui. Comme je l'ai vu, c'est que il était aussi bien avoir de la discussion, être calme et posé, et puis d'un coup sortir une phrase qui venait de nulle part, mais avec le bon moment pour faire une punchline ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, bah voilà, il y avait aussi cet humour qui était derrière, très caché, mais qui me plaisait énormément. Et de fil en aiguille, on discute, on danse, et puis bah on se rapproche. Mais je lui dis, je peux pas faire quoi que ce soit avec toi, parce que je suis en couple. Et que pour moi, c'est pas être honnête que de commencer quelque chose si je suis avec quelqu'un. Il me dit, je comprends parfaitement, il y a pas de souci, on est entre amis, sans problème. Et en fait, toute la soirée, ça a été ça, où on a passé que notre temps, que tous les deux ensemble, à discuter, à danser. Voilà, sur toute la soirée. Alors ensuite, je rentre chez moi, quelques jours se passent, et puis j'ai ma sœur au téléphone. Et là, je lui explique que bah je suis perturbée parce que bah je comprends pas. J'ai passé juste une seule soirée avec Alexandre et bah je pense à lui. J'ai envie de l'appeler, j'ai envie de lui faire des messages, mais c'est pas correct parce que je suis en couple. Et en fait, Alexandre me fait le premier message pour me demander comment je vais. Et je lui réponds, bah je vais bien, on discute. Mais je le stoppe en lui disant, écoute, voilà, on m'a expliqué que t'étais pas quelqu'un qui se posait et c'est pas ce que je cherche aujourd'hui. J'ai pas envie de stopper ma relation pour me mettre avec quelqu'un et que deux jours après, ça se termine. Et de là, il m'explique que non, pas du tout. C'est pas quelqu'un qui court les filles, que au contraire, c'est un homme très timide et donc forcément, il s'affiche pas avec n'importe qui, que c'est pas sa façon d'être. Et de là, en fait, je prends peut-être une bonne semaine pour prendre la décision de stopper ma relation avec la personne avec qui j'étais. Je pense que quand je l'ai vu durant cette soirée-là, ça a été ce qu'on peut appeler le coup de foudre. Voilà, je peux pas l'appeler d'un autre mot, c'est vraiment cette sensation-là d'être restée bouche bée. Il m'invite chez lui à dîner. Je pensais qu'il allait y avoir du monde, et non, on était vraiment que tous les deux. Donc on passe en fait cette soirée tous les deux à pouvoir discuter, s'expliquer, voir ce que chacun avait aussi envie. Et on apprend vraiment à pouvoir se connaître et à échanger sur ce qu'on recherche pour la suite de la personne avec qui on veut être, si c'est pour quelque temps ou pas du tout. Et là, Alexandre m'explique que il a jamais vécu de très grandes histoires d'amour, que voilà, il a vraiment envie de se mettre avec moi, de voir ce que l'avenir nous réserve, mais qu'il peut pas me dire si on allait faire notre vie ensemble, mais qu'il a envie de se laisser porter, et que c'était la première fois qu'il avait vraiment envie de se laisser porter. En fait, dès cette soirée-là, on échange des choses très profondes parce que je pense qu'on avait aussi besoin l'un et l'autre de pouvoir se rassurer et aussi de mieux comprendre ce qui se passait entre nous. Ce soir-là, en fait, on s'est embrassés pour la première fois en milieu de soirée. Et puis, quand il m'a raccompagnée chez moi, avant que je remonte chez moi, pareil, un dernier baiser pour me dire bonne nuit, quoi. Alors, ce baiser, honnêtement, ça a été comme un feu d'artifice. J'avais l'impression d'avoir 14 ans quand j'étais encore adolescente et qu'on fait ses premiers bisous. Et franchement, c'est là où je me suis dit, cette personne-là, elle n'est pas anodine. Et c'était bizarre parce que je n'ai pas cette habitude-là de me sentir proche d'une personne rapidement et que ça soit aussi intense avec une personne aussi vite. Donc, c'est vrai que décide très rapidement à vivre chez Alexandre dans son appartement. Donc au bout, je pense, de 3 mois de relation, on vit ensemble. Donc je déménage chez lui. Alors le quotidien se passe très bien. Ça confirme l'un et l'autre nos sentiments. C'était très fusionnel, très passionnel. Et c'est vrai que c'était compliqué quand on n'était pas l'un avec l'autre. Et j'appréhendais, moi, de pouvoir vivre avec quelqu'un. Et en fait, pas du tout. On est toujours l'un avec l'autre à se porter l'un et l'autre. Voilà. Ça, c'est notre dynamique de couple. Donc, quand on discute de projet, c'est vrai que moi, j'avais des envies de mariage, j'avais des envies d'enfant, puisque ça a toujours été ce que je souhaitais petite. Et quand je lui en fais part, c'est vrai que Alexandre, c'est très compliqué pour lui de se projeter, et surtout au niveau du mariage. Pour lui, c'est on habite ensemble, on évolue, on achète, ensuite on évolue, on se marie. Mais par contre, pour des enfants, ça a toujours été non. Je ne veux pas d'enfants. Je trouve que de faire des enfants, c'est très égoïste dans le monde auquel on vit. Donc, pour moi, je veux pas d'enfants. Ce que je comprends très vite, que ça sera non négociable et que j'accepte par amour. Et je lui dis, pas de souci, on ne fait pas d'enfants. Par contre, je veux qu'on ait quand même quelque chose qui nous lie tous les deux. Et on décide au bout de 5 ans de vie commune, 4-5 ans de vie commune, de se marier. Donc, on se marie en 2012. Très beau mariage. Donc, on aimait tout ce qui était un peu champêtre. Donc, on trouve dans le 77... un endroit avec un grand jardin et avec un intérieur un peu atypique, voûté, donc tout ce qui nous correspondait. Et on se marie au mois de juin. Et ce qui se passe, c'est que une semaine avant le mariage, Alexandre commence à se plaindre de maux de tête. Quand on en discute, il me dit c'est rien, des migraines. Je dis ok, j'en parle autour de moi. On me dit c'est peut-être lié au stress, il y a pas de souci à avoir. Après le mariage, il n'y aura plus de problème. Donc, on se marie au mois de juin, le samedi, et Alexandre était sous anti-migraineux. Peut-être le jour magique, idyllique, avec tout le monde autour de nous, des photos très belles, un mariage mairie, église. Vraiment, tout se passe très bien comme on le souhaite tous les deux. Arrive le soir de la nuit de noces où Alexandre me dit « Écoute, je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête. » Je dis « Écoute, je comprends parfaitement, pas de souci. » Donc, on s'endort. Le lendemain, on se fait un grand brunch avec toute la famille puisque moi, j'ai de la famille en Bretagne. Lui, toute sa famille vient du sud-ouest, donc tout le monde était monté pour profiter. Et on reprend notre travail pendant une petite semaine avant de partir faire notre voyage de noces. Et le lundi, Alexandre ne peut pas aller au travail, se plaint énormément de maux de tête et commence à me dire que ces maux de tête, il a un souci de vision. Il commence à voir flou. Et c'est vrai que je lui dis va voir à l'hôpital, tu peux pas rester comme ça. Il va au 15-20 pour comprendre pour sa vue parce qu'il pensait en fait que ce maux de tête était lié à la vue. Et au 15-20, ils lui font passer un premier scanner, puis un deuxième. Et moi, j'étais au travail. Et là, il m'appelle en urgence en me disant « Écoute, Maëva, j'ai un souci. Je vais à la Pitié-Salpêtrière en urgence parce que lors du scanner, on a découvert quelque chose au cerveau. » Et là, mon monde s'effondre. Je le rejoins en quatrième vitesse au 15-20 avant qu'il parte en ambulance. Et je le suis à la Pitié-Salpêtrière. Et là, en fait, on nous annonce que il a une thrombose cérébrale. Donc, une thrombose, c'est un AVC. Et là, mon monde s'effondre. Totalement. Alors, quand le spécialiste voit Alexandre pour mieux comprendre ce qui se passe, ne lui explique rien à Alexandre et me prend à part. Et le médecin me dit, écoutez, on ne sait pas s'il va passer la nuit. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le maintient en vie? Est-ce qu'on le laisse partir? Et là, je dis au médecin, je dis, mais je me suis mariée il y a que quelques jours. Donc, on n'en a jamais discuté, je ne sais pas. Donc, j'essaye de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Et le médecin me dit, surtout, vous n'en parlez pas à votre mari parce qu'il ne faut pas le stresser et l'inquiéter. Donc, vous n'en parlez pas. Et je retourne voir Alexandre. J'essaye de maintenir un visage correct, ne pas lui montrer. Alexandre comprend quand même que c'est assez grave parce qu'on lui demande de ne surtout plus se lever, de rester allongé. On lui fait une batterie d'examen. Et toujours cet humour-là d'Alexandre, je lui dis « Faut pas que tu m'abandonnes, faut que tu restes ici. » Il me dit « T'inquiète pas, je ne serai pas un légume. » parce que je sais que tu n'aimes pas les légumes. » Et là, je souris en essayant de garder la face et je lui dis « Mais tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. » Et là, je prie de tout ce que je peux prier pour que la nuit se passe bien et que le lendemain, je puisse avoir des bonnes nouvelles. Donc, on échange des textos régulièrement. Toutes les 2-3 heures, je me réveille, je lui fais un message pour voir si tout se passe bien et il me répond. Donc, ce qui est rassurant. Et le lendemain matin, première heure, je retourne le voir à l'hôpital. Les médecins essayent de mieux comprendre ce qui se passe. Ils me disent, écoutez, il a passé une première nuit, ce qui est déjà très bien. On essaye de voir. Voilà, donc pendant à peu près 15 jours, il est resté en soins intensifs et pendant un mois et demi sous surveillance à l'hôpital, il s'en sort par miracle sans séquelles. Par contre, avec un traitement très lourd pendant plus de 18 mois d'anticoagulants, de vérification, de scanner d'IRM régulièrement. Mais voilà, au bout de 2 mois, il peut sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Quand Alexandre sort de l'hôpital, tout de suite, je lui dis, j'ai failli te perdre. C'était quelque chose de très dur pour moi. Ça a été une période assez compliquée pour moi. Et il me répond, je sais et je veux pas que tu restes seul. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'est posé la question à l'hôpital sur le désir d'enfant. Et je pense que la période où il était à l'hôpital et de me savoir moi toute seule et s'il partait que je restais toute seule, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait cogiter. Et en sortant de l'hôpital, en rentrant à la maison, il me dit « Bah écoute, pas de souci, on ferme un enfant. Je veux pas te laisser tout seul s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a d'autres soucis de santé. » Il me dit « Non, ça serait pas correct, donc je suis partant pour faire un enfant. » Je pense que je me suis dit « Cette histoire-là, ce qu'on a vécu, ne fait que renforcer notre lien qu'on a ensemble et notre envie, en fait, de faire toute notre vie ensemble. » Et que, en fait, on s'est rendu compte et il s'est rendu compte que notre vie de famille, c'était pas que à deux, mais à trois avec un enfant. Et j'ai été surprise. Je m'y attendais pas du tout, puisque moi, je m'étais fait à l'idée de pas du tout avoir d'enfant dans ma vie et de vivre qu'avec Alexandre. Donc, très surprise et en même temps, très apeurée. Parce que, étant jeune, moi, j'ai eu une maladie de sang très grave. Et j'ai eu des différents traitements où on m'avait prévenu que potentiellement, je ne pourrais peut-être pas non plus avoir d'enfant ou que ça allait être très compliqué pour tomber enceinte. Donc, la première phase où il me dit « c'est bon, on peut faire un enfant », moi, tout de suite, j'ai cogité derrière en me disant « mais est-ce que ça va être possible? Est-ce que je peux ?» Voilà, donc ça a été après des péripéties, mais... Je lui dis, ok, on fait un enfant, mais il faut pas qu'on tarde. Donc, un mois après qu'il soit rentré de l'hôpital, je suis tombée enceinte. Et quand je lui annonce, je revois encore sa tête avec le test de grossesse parce que je sentais quelque chose. Et là, je vois dans ses yeux où c'était réel. Et là, il me dit, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Et puis après, un grand sourire en me disant... Bon, d'accord, c'est parti, quoi. Une nouvelle aventure, mais très heureux. Et Alexandre a choisi le prénom Eden, et il est arrivé le 29 mai 2013 dans notre vie. Alors, j'ai eu mon premier coup de foudre avec Alexandre et j'ai eu un autre coup de foudre quand mon fils est né. Il est né par césarienne. Et c'est vrai que quand on me l'a présenté, j'ai vu ce petit être et j'ai senti cet élan d'amour grandir dans mon corps, chose que j'avais du mal à pouvoir le sentir auparavant en étant enceinte. Alexandre, quand il a eu Eden dans les bras, il m'a dit « j'ai su que c'était mon fils ». Et j'ai su qu'il avait besoin de moi. Et en fait, Alexandre, qui n'est pas quelqu'un de démonstratif, qui ne dit pas beaucoup de choses, à son fils, il a tout de suite dit « je t'aime ». Il a tout de suite été très à l'écoute de son fils, présent pour lui. Il a pris son rôle de papa très à cœur. Donc, les débuts de cette famille compliquée, il faut trouver chacun aussi notre façon d'être, parce qu'on n'était qu'un couple à deux. Donc là, de se trouver à trois, de retrouver aussi nos marques avec les besoins d'Eden, comment il faut être aussi avec un tout petit. Donc, c'est vrai que les débuts, c'était un petit peu complexe. Et puis, en plus, Alexandre était encore malade, avait encore des suivis médicaux assez lourds. Donc, c'est vrai qu'on a essayé d'avancer pas à pas dans cette aventure-là. Et puis, au bout des 2 ans d'Eden, je dis à Alexandre, je dis, écoute, j'ai pas envie de laisser Eden tout seul. Parce qu'au début, on s'était dit, on fait un seul enfant. Et au fur et à mesure que les jours passaient, et au bout de 2 ans, je dis à Alexandre, je dis, écoute, s'il nous arrive quoi que ce soit, ça veut dire qu'Eden, il se retrouve tout seul. Est-ce que vraiment c'est ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux qu'on reste toujours avec un seul enfant? Et Alexandre me dit, non, tu as raison. C'est vrai que s'il nous arrive quelque chose, ça serait bien qu'il ait un frère ou une petite sœur pour jouer, qu'il soit pas tout seul, tout ça. Il me dit, écoute, on réfléchit pour un deuxième. Et je lui dis, oui, mais si on fait un deuxième, c'est maintenant. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais là, je sens au fond de moi que c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse un deuxième. J'ai ce besoin, cette envie au trip d'être de nouveau enceinte, d'avoir un nouvel enfant. Par chance, je retombe enceinte encore rapidement. Et 3 ans après l'arrivée d'Eden, en mai 2016, arrive notre deuxième petit garçon qui s'appelle Malo. La famille est au complet, pareil, besoin de retrouver aussi nos marques, parce que de passer d'un enfant à 2 enfants, c'est pas pareil. Et en fait, je me rends compte qu'on s'éloigne, on donne beaucoup d'amour à nos enfants, on privilégie beaucoup notre vie de famille à 4, on sort plus tous les deux, on n'est plus un couple, on est vraiment un papa, une maman, des enfants, et tout tourne autour des enfants. Et nous, déjà, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes et femmes, on se perd. Et par la suite, de couple aussi. Parce que je vois Alexandre très aimant vis-à-vis de ses enfants, très démonstratif vis-à-vis de ses enfants. Par contre, vis-à-vis de moi, c'était pas du tout pareil. C'était très compliqué. Et je pense que je me suis renfermée face à ça. Et je me suis éloignée de plus en plus, même si régulièrement, je disais à Alexandre... Alexandre, on est un homme et une femme, on est un couple, et c'est vrai que on n'est pas que des parents. Dans quelques années, nos enfants vont partir. Ça serait bête qu'on s'éloigne, quoi. On a besoin l'un de l'autre aussi. En fait, l'éloignement a été très important, et je me rends compte que quand on s'éloigne pour revenir, c'est plus compliqué que prévu. Et en même temps, dans cet éloignement, j'ai ouvert une porte à une personne extérieure qui a commencé à me charmer, à me redonner de l'importance que je ne trouvais plus dans ma vie de couple. Je discutais avec cette personne-là, ça me faisait du bien. Je voyais que je suis pas qu'une mère, mais je suis aussi une femme. Et c'est vrai que ça me donne de l'importance et ça me fait du bien de sentir tout ça. Et comme je dis, l'éloignement avec Alexandre, plus les jours passaient, les mois passaient, plus c'était compliqué de revenir. Et donc face à ça, la porte que j'ai ouverte, j'ai décidé, moi, de complètement ouvrir cette porte et j'ai préféré stopper mon histoire avec Alexandre. Malo allait avoir 1 an quand j'annonce à Alexandre que je veux stopper notre histoire. J'ai besoin d'arrêter là. Parce que dans ma tête, pour moi, quand on ouvre une porte à une personne extérieure, c'est que dans notre couple, ça va pas. Et que la seule possibilité, c'est de se séparer. Je n'avais pas en tête qu'il y avait des possibilités de pouvoir discuter ensemble. Moi, c'était ce qu'on m'avait appris quand j'étais adolescente. C'est que si tu trompes quelqu'un ou t'es trompée, tu fermes la porte, tu te sépares et voilà. Et donc, j'annonce à Alexandre que je préfère qu'on stoppe, qu'on divorce. Et là, Alexandre, sous le choc, ne s'y attendait pas du tout. Lui ne veut pas divorcer, ne comprend pas pourquoi je veux partir. Et essaye par tous les moyens de discuter, de pouvoir me faire des attentions, me dire « mais non, faut pas partir ». Quand je lui annonce ça, je pars vivre chez mes parents, qui habitent pas très loin. Lui reste dans la maison et malheureusement, commence à ce que ça soit très tendu entre nous. Parce que comme Malo était petit, n'avait qu'un an, je voulais pas de faire de garde alternée. puisque pour moi, c'était très important que Malo soit beaucoup plus présent avec moi qu'avec Alexandre pour son développement. Alexandre se bat pour ses enfants, ce que je peux comprendre, et que de mon côté, bah, je me bats aussi pour les enfants. Je pense que c'est sous le couvert de se battre pour nos enfants qu'il y avait aussi une rancune l'un envers l'autre. Et cette rancune-là est passée par le fait de vouloir avoir nos enfants le plus possible. Et donc, bah, on s'est dit des choses, on est passé par des avocats. C'est vrai que les avocats, quand ils ont les dossiers en main, c'est pas forcément très humain. Des mots déjà par mail pour dire certaines choses vis-à-vis de la façon dont on gère les enfants, par le fait de revendre la maison et donc de demander de l'argent. Ça a été aussi sur le fait que moi, j'ai rencontré quelqu'un, donc bah, lui, dès qu'il l'a su, m'a fait suivre par des détectives pour mieux comprendre, pour faire passer que j'étais une mauvaise mère et avoir les enfants. Donc voilà, c'est parti quand même très très loin pendant 2 ans. Je pense que c'était la façon qu'a besoin Alexandre pour pouvoir tourner la page de notre histoire. Et de mon côté, c'était aussi, je pense, ma façon aussi de pouvoir aussi, moi, me détacher de ce qui s'était passé et de pouvoir me reconstruire. Donc chacun à notre niveau, on a fait ça pour pouvoir avancer sans forcément penser à l'un à l'autre et sous le couvert de nos enfants. J'essaye de me reconstruire tout en gérant le divorce. Et puis, ce qui se passe, c'est que j'ai un accident au ski 2 ans après notre séparation. J'ai un grave accident en décembre 2018 où je me fracture 3 vertèbres, dont une qui frôle la moelle épinière. Donc, j'étais en fait au ski avec mes enfants et des amis. Alexandre était resté sur Paris. Et ce qui se passe, c'est que je me fais héliporter pour me faire opérer en urgence de cet accident. Donc, je gère à distance le rapatriement de mes enfants pour pouvoir suivre de la rééducation et pouvoir aussi surmonter cette épreuve que j'ai pu vivre parce que je me retrouve à faire à peine 30 kilos parce que je porte un corset, à pouvoir à peine marcher, à peine tenir debout. Je peux pas me laver toute seule, je peux pas m'habiller. Donc voilà, j'ai aussi besoin d'aide dans tout ça. Je dois composer ça avec mes parents, avec Alexandre, pour pouvoir faire que les enfants n'aient pas non plus de coupure face à ce qu'on avait mis en place avant l'accident. En fait, nos rapports sont toujours très tendus et c'est vrai qu'on se parle que pour les enfants, pour le suivi, l'évolution des enfants, tout ça, mais pas pour se demander de l'aide si on avait besoin d'aide personnellement. Il y a un changement qui s'opère au bout de 6-8 mois après mon accident. Je vois un changement d'Alexandre et je pense aussi que du mien aussi, vu que j'étais plus dans cette agressivité-là non plus. J'avais d'autres choses à gérer, il fallait que je me remette de tout ça avec ces soucis de santé-là. Parce que le médecin, moi, m'a bien fait comprendre que je suis une miraculée. Durant l'accident, je suis passée très peu à la paralysie totale et même à la mort, et même durant l'opération, parce que j'ai subi une opération qui a duré plus de 8 heures. Donc, je comprends que j'ai une seconde chance dans ma vie. Et en fait, je pense que de passer par cet accident-là m'a fait ouvrir les yeux aussi que d'être agressif avec le père de mes enfants, que toute cette rancœur-là, c'est pas quelque chose de bon et de positif. Donc, je pense que je change aussi de façon d'être avec Alexandre. Et je pense que ça l'aide aussi. Il est venu régulièrement m'aider les week-ends à gérer les enfants. Il est venu aussi m'accompagner quand j'avais des rendez-vous médicaux. Voilà, on a été plus souvent présents l'un pour l'autre, parce que en parallèle, son beau-père a fait un AVC aussi et a eu des graves séquelles. Donc pareil, j'ai été présent pour lui psychologiquement durant cette épreuve-là. Il y a un rapprochement qui s'opère, je dirais une forme d'amitié qui se crée. Voilà. Ce rapprochement-là, c'est sous forme d'amitié où on est on est des parents, d'Eden et Malo, on est des parents et on est aussi amis et proches l'un de l'autre pour s'épauler dans ce qui peut nous arriver dans notre vie. Ça me fait du bien et je pense que ça nous fait du bien puisque c'est vrai que quand on quitte quelqu'un, on quitte aussi son meilleur ami. Moi, Alexandre, c'était aussi mon meilleur ami. Je lui racontais beaucoup de choses. C'était quelqu'un qui me portait beaucoup, qui me valorisait énormément. Donc, quand j'ai tout quitté et qu'on a divorcé, je perdais aussi cette chose-là. Et en fait, de retrouver cette amitié-là me fait beaucoup de bien. En fait, c'est une amitié, mais on se redécouvre aussi. En fait, on s'est perdu en tant qu'homme et femme. Et là, en fait, on se redécouvre homme et femme. En même temps, en ayant évolué chacun de son côté et en ayant aussi travaillé psychologiquement sur l'un et sur l'autre, hein, puisque on a tous les deux été voir des thérapeutes pour passer ce deuil de notre relation, ce divorce. Donc, en ayant aussi travaillé sur nous, on a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on recommence à se découvrir, on voit que la personne qu'on a en face de l'autre n'est pas plus celle qu'on a connue il y a 2-3 ans auparavant. Moi, de mon côté, je me retrouve toute seule. Depuis l'accident, en fait, je suis toute seule. Déjà parce que j'ai pas de temps pour être avec quelqu'un vu les grosses séquelles que j'ai eues. J'ai eu pendant plus d'un an et demi de la rééducation 2 fois par semaine. Donc, ça laisse peu de temps aussi à pouvoir rencontrer, sortir. Donc, ça me faisait du bien aussi de pouvoir avoir un temps pour moi et de me découvrir et de me connaître aussi. Donc, je me retrouve durant 2-3 ans célibataire. Donc, ce qui ne me fait pas de mal en soi. Donc, cette amitié-là, elle s'est créée, elle s'est renforcée, je vais dire, grâce au Covid. Puisque durant le confinement, on travaillait, on faisait du télétravail et on devait gérer les enfants. C'est compliqué de pouvoir télétravailler avec 2 enfants en bas âge. Et en fait, on décide avec Alexandre de garder 1 enfant chacun pendant 2-3 jours pour pouvoir faire les devoirs des enfants plus télétravailler. Et puis au bout de 2-3 jours, on se retrouve, on dîne ensemble et on switch les enfants. Comme ça, les enfants passent aussi du temps ensemble, du temps avec papa et maman. Et on switch à peu près tous les 2 ou 3 jours d'enfants, ce qui nous permet de pouvoir travailler, s'occuper de l'enfant avec qui on est pleinement sans qu'on soit débordé. Et pendant les moments de switch, en fait, on passe du temps ensemble. On passe la soirée ensemble, on dîne ensemble, on joue tous les 4. Et puis arrive un autre confinement où on doit de nouveau être tous confinés. Et là, je propose à Alexandre, au lieu de switcher les enfants, ce qui est bien en soi, mais pas non plus très bon pour le développement de nos enfants, c'était peut-être de partir dans une maison, de louer une maison et puis de partir durant toute la deuxième période du confinement. Chose qu'on a faite. Donc en fait, on a tous vécu, tous les 4 ensemble, dans une maison, le nouveau confinement, ce qui nous a permis de pouvoir gérer notre travail à distance et puis en même temps les enfants. Et puis nous, de continuer en fait à développer notre amitié. Je me dis, de se retrouver comme ça, c'est plutôt sympa. En fait, on a trouvé un bon équilibre, tous les 4 comme ça, pouvoir être aussi amis. Parce que moi, dans ma tête, on était amis et qu'on avait réussi en fait à passer cette rancœur-là. On est amis, c'est chouette. Ça nous fait du bien, nous, en tant qu'Alexandre et Maëva. Et puis même pour nos enfants, de pouvoir profiter de papa et maman, d'être ensemble. Donc, je vois cette chose-là comme possible. Que, en fait, on peut réussir aussi notre divorce malgré tout ce qui s'est passé, et de réussir notre divorce et de réussir à pouvoir s'apprécier l'un et l'autre et d'être présent pour nos enfants. Et quand j'explique ça à l'extérieur, que j'en discute, que après le confinement, on continue à se voir régulièrement, à sortir tous les 4 ensemble, à faire des petits week-ends de temps en temps tous les 4. Voilà, j'en parle autour de moi, on me dit « Mais Maëva, c'est un peu bizarre ce que tu me racontes, ce que tu vis là, t'es sûre que c'est que de l'amitié, il n'y a pas autre chose derrière ?» Et je leur dis « Mais non, il n'y a vraiment que de l'amitié, non, c'est au moins on a trouvé un terrain d'entente, on s'entend bien, non, c'est que de l'amitié. » Puis plusieurs fois, on me dit, mais Maëva, il n'y a qu'Alexandre et toi qui ne voyez pas ce qui se passe. C'est plus que de l'amitié, ce que vous avez. Vous êtes présents l'un pour l'autre. S'il y a un souci, vous répondez présent. Vous faites des week-ends. Vous pouvez même faire quelques vacances ensemble. Non, ouvre tes yeux, Maëva, c'est pas que de l'amitié. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ah, peut-être. Et je commence en fait à me poser la question si ce n'est que de l'amitié. On parle pas de ce que pensent l'un et l'autre. Je sais qu'il a des histoires aussi de son côté, donc je respecte ça, je dis rien. Et en même temps, comme je comprends pas ce qui se passe de mon côté, je veux pas lui en parler. Parce que je me sens pas légitime de pouvoir en parler vu que c'est moi qui suis partie et qui ai demandé le divorce. Jusqu'au jour où, oui, Alexandre, durant les grandes vacances, on se partage les enfants. Et lui part pendant 15 jours à l'étranger. Et donc moi, je me retrouve avec les enfants toute seule pendant 15 jours. On échange des messages pendant toute la période où il part à l'étranger. Sous le couvert encore des enfants, hein, de prendre des nouvelles, mais voilà, on se taquine aussi. Et puis, je le récupère à son retour des vacances pour faire plaisir aux enfants. On discute dans la voiture et là, il m'annonce en fait qu'il était parti à l'étranger, pas avec des amis, mais parce qu'il avait rencontré une femme. Et là, en fait, mon cœur se met à s'arrêter. Une douleur dans mon cœur et là, je comprends en fait que ce que je ressens, ce n'est pas que de l'amitié. Et je lui avoue. Je lui dis non, c'est pas possible, tu peux pas avoir rencontré quelqu'un, j'ai des sentiments pour toi, non, non, c'est pas possible. Et là, il reste bouche bée et me dit c'est pas le bon timing. Et je me rends compte que, bah, mince, je l'ai perdu. Et c'est compliqué pour moi d'accepter ça. Et je lui dis, mais je te lâche pas. Ok, t'as rencontré quelqu'un, pas de souci, mais je te lâche pas. Tu es le père de mes enfants. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, même quand on a divorcé, que Alexandre, c'était l'amour de ma vie. Que malgré tout ce qui s'était passé et si je rencontrais personne d'autre, j'avais rencontré le grand amour avec un grand A. Et que je sais ce que c'est que d'aimer vraiment à la passion fusionnelle, passionnelle et à la folie. Donc j'ai dit, non, je lâche pas, je vais te reconquérir. Et donc, lui me fait comprendre que non, il n'y aura plus rien entre nous, que c'est pas la peine, qu'on est amis, qu'on s'entend bien, mais qu'il n'y aura rien de plus. Alors moi, ma reconquête, c'est de faire de plus en plus de choses tous les quatre. Donc, j'organise des petits week-ends, j'organise des sorties en semaine avec des enfants. Ou quand j'ai des places de concert, je lui propose qu'il m'accompagne, qu'on se fasse des petites choses tous les deux. Quand nos enfants partent chez mes parents, parce que moi, mes parents vivent dans le sud, on se retrouve pendant 15 jours tout seul. Je lui propose qu'on puisse se voir, qu'on se fasse des cinémas, des choses comme ça. Quand il vient à la maison, je lui dis viens manger à la maison avec les enfants. Je lui prépare ce qu'il aime, je lui fais des petits cadeaux. Je le charme vraiment sur cette partie-là, pareil par message. Donc à lui faire comprendre que moi je lâche pas et que je joue pas sur deux tableaux parce que j'ai personne dans ma vie et que c'est quelqu'un qui est important pour moi et donc je rame pendant plus d'un an. L'élément déclencheur pour lui où il comprend qu'il peut nous laisser peut-être une nouvelle chance, je passe un été chez mes parents pendant que lui est pendant 15 jours avec les enfants dans sa famille dans le sud-ouest et puis je lui dis écoute, viens chez mes parents depuis qu'ils ont déménagé, t'as pas du tout vu où ils habitaient, mes parents t'invitent à passer quelques jours chez eux avant de reprendre la rentrée scolaire. Et je pensais pas qu'il allait venir. Il me dit écoute, pas de souci, les enfants seraient hyper contents. Donc il vient chez mes parents pendant 4-5 jours profiter du sud-est et du beau temps. Et en fait, pendant ces 4-5 jours, pareil, on continue à se chamailler comme des enfants dans la piscine, à jouer. Et en fait, quelques temps après, il m'avoue que c'est à cette période-là où il me voit d'une autre manière, où il commence à se dire que, pourquoi pas, c'est peut-être possible. Oui, en fait, il ne me voit pas comme une simple amie. Donc, c'est à ce moment-là où ça commence un peu à lui faire changer d'optique. Et puis, on remonte sur Paris tous ensemble, on fait la rentrée scolaire. Et on a une amie en commun qui fait sa pendaison de crémaillère à Tours, fin septembre. Et donc, elle nous invite, toute la famille, à faire cette pendaison de crémaillère à Tours. Donc, on y va tous les quatre. Et normalement, quand on part comme ça, on dort chacun avec un enfant, dans un lit avec un enfant, pour que ça soit plus pratique. On prend une chambre d'hôtel, mais avec des lits où on peut dormir chacun avec un enfant. Et puis, cette soirée-là, tout se passe très bien, on s'amuse, on passe une bonne soirée, on rentre à l'hôtel. Et arrivé à l'hôtel, moi, je me prépare pour aller me coucher. Pendant ce temps-là, les enfants, normalement, vont chacun dans un lit. Et là, je ressors, les enfants sont tous les deux dans le même lit. Et donc, je me dis, bon, bah, il reste plus qu'un lit, je vais devoir dormir avec Alexandre. En soi, moi, ça ne me dérangeait pas, vu que j'essaye de le reconquérir. Mais je me dis, bon, bah, pour lui, peut-être que ça va le gêner. Et en fait, pas du tout. Et on se retrouve, en fait, à dormir ensemble dans le lit. Et durant la nuit, à se rapprocher l'un et l'autre, à dormir dans les bras l'un de l'autre. Je sais que quand il s'est rapproché de moi, parce que c'est lui en fait qui s'est rapproché de moi pour me prendre dans ses bras, je me suis sentie toute chose. Comme il y a... Maintenant, ça fait 17 ans qu'on se connaît avec Alexandre, comme au tout début... Quand la première fois, il m'a prise dans ses bras et qu'il m'a embrassée, j'ai ressenti les mêmes papillons, le même feu d'artifice. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ça y est, j'ai peut-être mis un an, mais ça y est, enfin. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que c'est juste comme ça parce qu'on se retrouve là dans le même lit, donc il me prend dans les bras pour dormir. Voilà, est-ce que c'est juste ça ou est-ce qu'il a envie qu'on retente quelque chose? Et puis, je vois le lendemain, on décide de se balader avant de repartir sur Paris. Et puis, on mange dans un petit restaurant. Et là, discrètement, puisqu'on est assis l'un à côté de l'autre, il me prend la main. Pas le montrer aux enfants, tout ça. Et on rentre sur Paris. Et à un moment donné, je lui pose la question. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Et là, il me dit, oui, j'aimerais bien qu'on réessaye tous les deux. On voit où ça nous mène, mais on n'en parle pas aux enfants. Et donc, en fait, on part de là de se redonner une deuxième chance. Je me disais, oh, je vais le retrouver, ça va être comme avant. Mais en fait, pas du tout. On se redécouvre. Même notre première fois, notre première relation intime, c'était à redécouvrir le corps de l'autre. C'est à passer des moments secrets que tous les deux, à pas montrer aux autres. Donc, ça permet aussi, je pense... d'alimenter notre histoire, de pouvoir aussi se redécouvrir l'un et l'autre en tant qu'homme et femme et en tant que couple, tous les deux. C'est pas comme si on avait fermé le livre et qu'on avait repris là où on l'avait laissé quelques années auparavant. Non, c'est une nouvelle page avec une nouvelle personne qu'on connaît, certes, parce que ça fait des années qu'on se connaît, mais c'est pas la même personne qu'il y a 5 ans en arrière quand on a mis fin à notre histoire. Voilà. Je ne suis pas la même personne non plus. Et en fait, on apprend de ce nouveau couple qui on est dans ce couple-là. Voilà. Qui n'est pas du tout ce qu'on connaissait il y a des années auparavant puisqu'on n'est plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, les enfants ont su... plusieurs mois après qu'on se remettait ensemble, j'ai Malo, mon petit dernier, qui est un fin limier et qui trouvait ça bizarre que papa et maman étaient souvent ensemble, qu'on venait souvent le récupérer à l'école et régulièrement, qui nous disait « Oh, c'est bizarre Oh, papa, je suis sûre que t'es de nouveau amoureux de maman. Maman, tu t'es remis avec papa. Non, 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 non. » Et en fait, on leur annonce plusieurs mois après que oui... on s'était remis ensemble, donc ça a fait le bonheur d'Eden et de Malo. Malo qui part dire à tous ses copains et à ses grands-parents que papa et maman se sont remis ensemble et se sont même remariés, ce qui n'est pas la réalité. Mais dans sa tête, c'était comme si on était remariés. Et pour Malo, c'est important parce qu'il nous a jamais connus à vivre ensemble. puisque quand on s'est séparés, il avait un an. Donc, Malo apprend ce que c'est que d'avoir un papa et une maman à vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a chacun notre chez-soi, encore, mais on est presque tous les soirs à être chez l'un et chez l'autre. Quand je regarde cette histoire, je me dis que on peut aimer une première fois, on peut se déchirer dans un couple, mais on peut se réaimer. Et surtout, c'est qu'on peut apprendre de nos erreurs, on peut se pardonner. Malgré du mal qu'on peut se faire, on peut vraiment se pardonner et apprendre à revivre avec quelqu'un qu'on a aimé une deuxième fois. Il est possible de pouvoir faire confiance à une personne, perdre cette confiance, mais la retrouver aussi. Savoir demander pardon à l'autre et que l'autre puisse accepter de pardonner aussi. C'est ce qu'on a fait l'un envers l'autre avec Alexandre et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir revivre ensemble sans avoir des rancunes.
Bon, alors je vous l'ai promis en introduction de ce podcast, on va parler un peu d'amour, une fois n'est pas coutume, à la fin de l'histoire. On va un peu philosopher et on va le faire avec le réalisateur de ce film dont je vous parle beaucoup en ce moment, c'est Hors Saison, Stéphane Brisé, qui est là avec moi aujourd'hui. C'est ce jour de Saint-Valentin en plus, Stéphane.
Eh oui, incroyable.
Eh oui, c'est fou, c'est hasard.
Oui, c'est hasard.
Stéphane, donc ce film qui m'a énormément touchée, je le dis partout, je sais pas sur quoi ça a appuyé chez moi, je crois que ça appuie sur les histoires de beaucoup de monde. Une histoire qui a été coécrite avec Marie Drucker.
Tout à fait.
Pourquoi avec Marie ?
Marie, c'est une rencontre qui s'est faite il y a quelques années, et c'est une rencontre de confiance. Dès notre première rencontre avec Marie, je me souviens, alors que c'était pas du tout, c'était une rencontre professionnelle, où le thème professionnel a été très vite évacué. Et en fait, on s'est retrouvé à parler de choses très intimes et pas personnelles, notamment sur... ça parlait de notre rapport au monde, de l'amour certainement aussi, et avec une confiance dans le regard de l'autre assez étonnante. Et j'étais fasciné par l'honnêteté de son regard sur elle-même, et puis comme je suis assez frontal aussi, assez honnête avec tout ce qui peut me constituer de bien et de pas très bien, on s'est entendu là-dessus, et à la fin de la conversation, qui avait duré beaucoup plus longtemps finalement que ce qu'elle aurait dû durer, je lui ai dit, écoute Marie, si un jour j'écris une histoire sur un couple, sur une histoire d'amour, vraiment, je te demanderai de l'écrire avec moi, tellement j'adore ton regard, j'adore l'honnêteté avec laquelle tu parles de tout ça. Je trouve ça très rare. C'était la première fois qu'on se voyait et on a l'impression de se connaître depuis très longtemps. Voilà.
Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Marie Drucker, elle est très drôle. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le film parce qu'il y a des scènes qui sont
Non, ça serait plus rapide de faire la liste de ses non-qualités.
Oui, c'est ça, elle n'en a pas beaucoup. Elle est énervante.
C'est que Marie, elle est extrêmement intelligente, elle va très vite, elle est audacieuse, elle est curieuse. Et donc, c'est un espace de possibilités avec cette femme-là qui est assez géniale, vraiment.
Alors, ce film, il est avec Guillaume Canet. Je ne suis pas forcément une spécialiste, mais pour moi, c'est son plus beau rôle. Je ne l'ai jamais vu aussi extraordinaire que dans ce film. Il est accompagné d'Alba. Alors, j'ai peur de mal prononcer. C'est Rohrwacher, c'est ça ?
Non, CH en allemand, c'est Rohrwacher.
Rohrwacher.
Et comme ce n'est pas simple, c'est qu'elle est italienne.
Et oui, c'est ça, j'ai entendu dire qu'elle était italienne. Alors, elle est absolument incroyable, elle est magnétique.
Elle est sublime.
Elle est incroyable. Franchement, je n'ai pas... Comment vous avez fait pour trouver cette actrice ? Je me disais, mais quel bon choix pendant tout le film. Qui d'autre qu'elle ? C'est-à-dire que c'était vraiment...
Le destin qui a fait ça. Les dieux du cinéma qui sont penchés sur le
perso de ce film. C'est vraiment fou. Est-ce qu'on peut le résumer ce film en quelques mots pour nos auditeurs ? Parce que par définition, ceux qui écoutent le podcast alors qu'il vient de sortir ne l'ont pas encore vu.
Donc la chose la plus difficile à faire, c'est qu'un réalisateur résume son film. Mais l'histoire est assez simple sur le papier. Un homme, une femme, qui se sont aimés par le passé, qui se sont séparés, peut-être pas très bien, et qui se retrouve par hasard, 15 ans après.
Voilà, c'est exactement ça. Avec forcément une vie entre la première histoire et la seconde. C'est quoi une belle histoire au cinéma ? C'est quoi un beau film d'amour, un film d'amour réussi ?
Je pense que c'est une histoire qui résonne chez tout le monde, dans l'inconscient collectif. Je pense qu'il y a des fêlures, des failles qui sont assez universelles, sur ces histoires-là. Je pense qu'on est nourri aussi des mêmes, de la même mythologie sur les histoires d'amour, des mêmes récits qui nous construisent très fondamentalement. Alors, il y a ce qui est acquis et puis qu'est-ce qui est de l'inné qui traverse le temps. C'est très mystérieux, évidemment, mais quand une histoire d'amour, Titanic, par exemple, qui est absolument géniale, on est sur des choses très basiques, différence de classe sociale, c'est déjà un sujet, une rencontre évidente, l'audace de l'un qui révèle l'audace de l'autre, dans les deux sens, hein. Et on est dans quelque chose de totalement universel, ça résonne chez tout le monde, et donc voilà, c'est une belle histoire.
Mais il y a un empêchement quand même, faut un empêchement.
Par contre, on fait toujours des films où on écrit des livres avec des trains qui arrivent en retard. Donc, on ne peut pas raconter d'histoire sans qu'il y ait quelque chose d'écorché dans cette histoire. Sinon, c'était pas intéressant.
Comme dans toutes les histoires, dans Ex, il y a toujours un obstacle, bien entendu, et c'est peut-être ce qui leur donne autant de panache. Alors, c'est quoi le thème du film, Stéphane Brisé? Est-ce que ce sont nos histoires passées, ce qu'elles font de nous, c'est-à-dire la façon dont elles nous ont construits? Est-ce que ça parle des désillusions en amour? Moi, j'ai pensé à tout ça en regardant le film. Est-ce que c'est ce qui nous mène à trouver la juste personne, donc un peu notre juste place dans la vie? Puisque finalement, ce qui nous intéresse le plus, je crois, tous, c'est l'amour. Je pense que dans l'horoscope, on lit ça en priorité. Donc, c'est quoi le thème de ce film, si on devait en dégager un?
Alors, ce que vous dites est juste, mais peut-être qu'il y aurait une autre Agathe Le Caron, elle dirait trois autres choses différentes, et puis quelqu'un d'autre dirait trois autres choses, parce que finalement, c'est la manière dont notre propre histoire entre en résonance avec le récit qui est sur l'écran. Tout ça est juste parce que vous le dites. Si vous le dites, c'est parce que vous l'avez ressenti ainsi. Je sais que moi, je ne pars pas de quelque chose d'intellectuel, je pars pas d'un thème, en fait. Je pars d'une impression, je pars d'une sensation pour écrire un film, d'une intuition, d'une couleur, d'une vibration. Et j'écris l'histoire avec ça. Je savais qu'il y avait donc cet homme et cette femme qui allaient se retrouver 15 ans après. Et finalement, peut-être que si je pose des mots a posteriori sur ce qui a présidé au désir de cette histoire, c'est comment le temps nous construit, en fait. Hein.
Mais oui, c'est ça. Et alors, justement, qu'est-ce qui reste de nos histoires?
Comment le temps nous transforme?
Eh oui.
Ben voilà.
Est-ce que les blessures, elles restent pour toujours? Est-ce qu'on vit avec ça? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser totalement? Parce que c'est vrai, quand on regarde le film, on se dit que Alice vit avec un homme. Enfin, moi, la vision que j'ai eue de cet homme-là, c'est que c'est un homme tout à coup ultra sain, qui est absolument pas perverti par...
Son mari.
Voilà, son mari. Il fait du sport. Est-ce qu'elle serait allée vers un homme aussi simple, aussi sain, si elle n'avait pas eu son histoire avec Mathieu avant, qui était si compliqué?
Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, elle s'est mariée, mais on le voit, son mari, qui est joué par un acteur absolument formidable, qui s'appelle Sharif Ondora, son mec, il est super. Elle a trouvé
le mec idéal,
d'accord. Le mec, il est idéal, il est médecin dans une ville de province, donc on a tourné à Quiberon, donc on peut dire qu'il est médecin à Quiberon. Le mec, il est gentil.
Il l'aime.
Il l'aime. Tous les jours, en se levant, il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec cette femme-là? Parce qu'elle est formidable, parce qu'elle est magnifique. Mais c'est terrible. À la seconde où le spectateur le voit, donc il commence par voir Guillaume Canet, et il voit le mari, il fait pas le poids, le mari.
Mais non.
Il fait pas le poids. Parce
qu'on comprend, en fait, qu'il mérite même.
À ce moment-là.
Dans cette simplicité.
À ce moment-là, puisque quand le film, on commence d'abord, on voit Guillaume, et puis ensuite, il y a surgit Alice. Et Guillaume, en fait, est devenu un acteur très connu. Le personnage que joue Guillaume est devenu un acteur très connu. Aussi connu que ce qu'est Guillaume Canet dans la vie. Donc, il y a une petite mise en abîme qui est assez drôle. Donc, lui, au départ, il sait. Alors, c'est pas du tout un film sur l'acteur.
Sur ce métier.
Non,
pas
c'est
du
un
tout.
Film sur un homme. Il se trouve qu'il est acteur. Et on pourra revenir sur pourquoi il est acteur. Mais il est un peu au bout du scotch. Il s'est barré d'une pièce. Pour la première fois de sa vie, il allait jouer sur scène dans un grand théâtre. C'était quelque chose certainement qui allait valider son parcours d'acteur. Et à 4 semaines de la première, il s'est barré. Donc, il a abandonné.
Il n'a pas eu le courage. Il a eu peur de ne pas assurer.
Exactement. Et il est parti hors saison, en thalassothérapie, dans un hôtel, je ne sais pas, 7 étoiles et demie. Trop luxueux, trop grand, trop clinquant, tout ça, qui est une sorte de métaphore aussi une forme d'artificialité de sa vie à ce moment-là, en tout cas du sentiment qu'il en a. C'est quelqu'un qui, je pense, a inconsciemment fabriqué son problème. En l'occurrence, c'était la pièce de théâtre, parce que c'était à ce moment-là de sa vie. Ça aurait été, il aurait fait autre chose.
C'est l'élément déclencheur.
C'est l'élément déclencheur. Et je pense, c'est souvent le cas d'avis, qu'on le déclenche, cet élément déclencheur.
Bien sûr.
On fabrique le truc qui va nous mettre dans une situation où il y a nécessité de se poser des questions. C'est pas des situations très agréables à vivre. Parce que là, on est au cœur du cyclone et c'est très tourmenté. Ce mec a une vie agréable. Il gagne très bien sa vie, il fait des films, ça marche, etc. À ce moment-là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. On va comprendre que ça dysfonctionne aussi dans son couple. Parce que je pense que le personnage que joue Guillaume et le personnage que joue Alba sont deux personnages qui arrivent après 15 ans de séparation, 15 ans de construction chacun de leur côté. Je pense qu'ils arrivent au bout de la logique de ce qu'ils avaient mis en place au moment de la séparation. Ils ont pris des chemins extrêmement différents. Lui, il est devenu un acteur connu pendant que elle, pendant ce temps-là, elle s'est isolée, voilà, dans cette petite station balnéaire. Elle a une vie agréable, confortable. Mais on comprend que ses rêves, qui étaient de faire du, elle joue encore du piano, mais elle voulait en faire un certain niveau. Elle a remisé ses rêves. En fait, elle a mis ses rêves sous le boisseau et elle.
Ce qui est assez frappant aussi, c'est qu'il y en a un qui est allé au bout de son rêve et l'autre qui a pas réussi.
Oui, mais alors est-ce que finalement elle a utilisé la séparation à cette époque-là pour se donner une bonne raison de ne pas se confronter à son rêve? Parce que c'est vrai, c'est très compliqué de se confronter à son rêve. C'est des métiers extrêmement compliqués.
Qu'il dites-vous, Stéphane?
C'est des métiers, en fait, ce qui est évidemment, quand les gens voient les artistes à la télé, à la radio, c'est de fait des gens qui ont réussi leur parcours. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est passé, il y a la notoriété, etc. Mais là, tout ce que ça met en œuvre de risque, le nombre de fois où on nous dit non, où on se prend des portes dans la tête, c'est assez difficile de l'imaginer, cette chose-là. Et donc, il faut une résistance à la douleur, souvent, qui est assez particulière. Quelle est cette nécessité à l'intérieur de la personne qui pousse celle-ci à supporter tout ça pour à un moment être à un endroit où son travail va se faire à un certain niveau et va pouvoir exprimer et révéler tout son talent. Et je pense qu'on peut avoir la prescience de cette difficulté et que cette difficulté vient toucher des points de très grande fragilité chez chacun d'entre nous. Et il est possible, je dis pas que c'est la vérité, mais il est possible qu'Alice, finalement, c'est quelque chose dont elle avait la prescience qu'elle ne le supporterait pas au moment où elle était peut-être à l'orée de quelque chose, et en tout cas son désir était là, et que peut-être, c'est une hypothèse, que cette séparation a été aussi le moment où finalement elle s'est extraite du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le regrette pas aujourd'hui. Et c'est justement tout ce dont le film va parler, c'est la manière dont chacun s'est construit avec la nécessité de cette construction, chacun de son côté, mais même la nécessité de son renoncement, mais aussi la peine immense de son renoncement et lui, ce moment de sa vie où il a eu peur. Et on comprend aussi que la relation avec sa propre femme, qui est jouée par Marie Drucker au téléphone, qui est absolument géniale.
Oui, parce qu'en plus, on n'a pas dit dans ses qualités qu'elle était bonne actrice.
En plus, elle est bonne actrice. Hein. Et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus synchrone entre ces deux êtres.
Oui, mais justement, est-ce qu'il aurait fallu que l'histoire de Mathieu et d'Alice soit vraiment définitivement terminé pour que lui puisse vivre une histoire formidable avec le personnage joué par Marie, donc avec sa nouvelle femme? Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement cette histoire d'amour n'est pas terminée, qu'elle est toujours, il y a toujours cette sensation des années après?
Non, je pense qu'à l'époque où ils se sont séparés, on le comprend dans le film qu'il a pas forcément péché par excès d'élégance en la quittant, ce qui est quand même souvent un truc très masculin. Et que pour lui, l'histoire était terminée. Je crois beaucoup à une notion assez triviale, finalement, dans la relation amoureuse, mais que dans toutes les relations, c'est le troc, en fait.
Alors, c'est quoi cette notion de troc?
Alors, en parlant comme ça, on a l'impression que le mec, il...
Moi, je crois comprendre ce que vous voulez dire. Ça m'intéresse parce que je crois que j'ai la même théorie.
Il y a toujours une histoire de deal, en fait, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation amicale ou une relation professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que la relation, n'importe quelle relation, arrange les deux parties.
Petits arrangements avec la réalité.
Exactement. Mais que ça nous arrange, même des fois dans les dysfonctionnements. Si on s'est construit autour d'une forme très sacrificielle, laisser la place à l'autre, etc., ben on va trouver un mec si c'est en l'occurrence la femme, qui va prendre toute la place et l'équilibre va se faire. Et le troc fonctionne tant que ça arrange tout le monde. Et puis à un moment, pour une raison X ou Y, tout à coup, l'un peut être allé voir le psy, comprendre des choses, et puis quelque chose qui ne va plus. Et là, tout d'un coup, il y a déséquilibre. C'est une façon d'en parler assez triviale, qui est peut-être un peu choquante même de parler comme ça des choses. Mais je pense qu'à l'époque de leur histoire, le personnage que joue Guillaume Canet était un personnage, son talent était en train de commencer à s'exprimer, il avait certainement fait quelque chose, puisque Guillaume a 50 ans, dans la vie et dans le film, donc ils se sont séparés, il avait 35 ans. Le début, sa montée en notoriété d'acteur. Mais je pense qu'à ce moment-là, il avait besoin de la présence d'Alice, parce que Alice, je pense qu'elle l'a aidé à traverser le moment du manque de confiance. Je pense qu'Alice lui a beaucoup dit « Mais si, t'as du talent, mais si, t'as du talent, je crois en toi, etc. » Et puis à un moment, les choses ont commencé à fonctionner, ça s'est installé, sa sérénité, il a été un peu rassuré sur lui-même. Et à ce moment-là, c'est terrible de dire ça. C'est inconscient, bien sûr. Il n'a plus besoin d'Alice.
Mais oui, c'est ça. Et ça, ça se ressent très fort dans le
film. Il va avec une femme très puissante. Marie joue, je me suis amusé à ça, elle joue la présentatrice du 20h. Donc, une star du 20h. Je pourrais faire un film sur cette femme dont on a l'impression dans le film qu'elle est uniquement très pragmatique.
Et elle n'est absolument pas dans les sentiments, les émotions.
Elle n'a pas d'espace du tout pour l'émotion et les sentiments, et elle n'a pas d'espace pour le trouble, à ce moment-là de sa vie, de son mari. Tu veux parler Guillaume. Elle n'est absolument pas réceptive. Mais je pense que cette femme pas réceptive, ultra concrète, ultra puissante, il en a eu besoin lui-même pour... je pense que ça a été un contenant pour Guillaume, pour sa vie professionnelle.
Mais ça veut dire qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un parce que ça va être finalement celle ou celui qui va nous permettre de réaliser... Non, parce qu'on dit souvent... Je me souviens que pendant longtemps, j'ai été avec un animateur télé, je rêvais de faire de la télé. On me dit, bah, de toute façon, Agathe, elle est avec lui parce qu'elle veut faire de la télé. Mais pour moi, ça faisait partie, justement, de ce symbole-là, de cette représentation d'une vie peut-être qui devenait accessible. Ça n'entachait pas l'amour que j'avais pour lui, ça le rendait pas moins noble.
Non, mais en fait, je pense que notre petit cœur se met à battre, et on appelle ça de l'amour, pour des raisons, des fois, très triviales. J'ai réalisé un film il y a quelques années qui était l'adaptation du roman de Maupassant, Une vie. Et dans Une vie, Jeanne, qui est pleine d'illusions absolues sur le monde, elle tombe amoureuse de Julien de Lamarre. Et Julien de Lamarre, c'est un mec désargenté, qui est vicomte. Et son père a cramé tout le fric de la maison. Et il va tomber amoureux. Moi, je crois qu'il tombe réellement amoureux. On pourrait penser qu'il est uniquement cynique et qu'il n'en veut qu'à la fortune de Jeanne. Et en fait, je pense que avant d'avoir la fortune, son petit cœur se met réellement à battre pour Jeanne. Il y a un sentiment qui n'est pas fin. Et à partir du moment où il est rassuré, parce que son traumatisme fondamental, c'est d'avoir été désargenté, d'avoir tout perdu du pouvoir social.
Elle vient combler cette vacuité-là.
Elle vient combler cette vacuité-là. À ce moment-là, quand il a ça, Jeanne ne lui sert plus à rien, puisqu'en plus, à l'époque, à partir du moment où lui, il devenait patron du business familial. Donc, en fait, il n'a plus besoin de Jeanne. Il n'est pas amoureux de Jeanne pour son rapport au monde. Il n'est pas amoureux de Jeanne pour sa sensibilité. Son petit cœur s'est mis à battre parce qu'elle réparait quelque chose. Et ensuite, quand ils ont été mariés, il s'est mis à la tromper. Voilà. Et c'est tout le traumatisme de Jeanne, parce que Jeanne, elle est bercée par un romantisme un peu sucré, très nourri par sa propre maman, qui est une forme de mythologie sur laquelle beaucoup d'hommes et de femmes se construisent. Et
c'est quoi justement le romantisme, la définition du romantisme?
Ça,
à vos yeux, de cinéaste?
Je ne saurais pas forcément donner une définition juste, précise et intelligente. En tout cas, j'ai le sentiment que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui peut être ou très sucré et un peu gnangnan, ou au contraire très chaotique. Il faut que ça soit romantique, il faut que ça soit un peu déchiré, un peu qu'on s'arrache les tripes et que ça ait une histoire romantique un peu rock'n'roll, ou au contraire il y a quelque chose d'un peu gnangnan. Et évidemment c'est rien de tout ça. Et donc je saurais pas donner une définition. En tout cas là.
Il faut qu'elle soit un peu impossible quand même pour qu'elle soit romantique.
Mais parce que c'est très nourri par la littérature et que les histoires, les livres, les films, les chansons qui parlent d'amour, ça n'est intéressant que s'il y a une séparation, que s'il y a quelque chose de tumultueux, que s'il y a quelque chose de...
Mais d'ailleurs, dans la vie, c'est vrai que c'est, on est souvent un petit peu berné par ça. C'est-à-dire, par exemple, être avec quelqu'un qui n'est pas libre, chaque moment est précieux, chaque moment est volé, chaque moment est multiplié par 100.
Et donc, effectivement, on vit à ce moment-là les choses avec une intensité complètement dingue et complètement rare. Et alors, ce sentiment d'exister du vivant au travers de ces moments d'une grande intensité, mais extrêmement parfois douloureux, je pense que ça évolue avec le temps. Je pense qu'il y a quelque chose qui... ce que je pouvais trouver beau à 25 ans et intense, je le trouve plus forcément aussi beau et intense à plus de 50 ans, quoi. Et quand je dis plus de 50 ans, c'est presque 60. Donc, un peu avec coquetterie, je dis oui, mais après 50 ans. Mais c'est-à-dire que ce que je trouve sublime, c'est la nécessité de l'autre et en même temps l'acceptation de la différence de l'autre. Quand j'avais 25 ans, il fallait que ça soit tumultueux, qu'on se retrouve sur l'oreiller, qu'on se remachin. En fait, trop encombré aussi de nos propres névroses, de... Et puis ensuite, le temps. Alors, le temps, à quoi il sert? Est-ce qu'il sert qu'à rendre la peau plus molle? S'il ne sert qu'à ça, c'est un peu triste. Hein. Mais en fait, si le temps nous aide à mieux nous comprendre, à apaiser quelques-unes des peines qu'on a, je trouve ça précieux, le temps qui passe.
Hein. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans le film aussi, c'est qu'au travers du retour donc de cette histoire d'amour, on se dit que finalement, Mathieu, il s'est trompé sur qui il est vraiment. On a l'impression qu'il a eu l'illusion d'être un homme qui pouvait survivre dans un milieu un peu parfois superficiel, même si c'est un peu cliché de dire ça. Mais en tout cas, on sent qu'il est un peu dépassé par ce milieu ou par l'absence d'affect de sa femme et qu'il s'est un peu fourvoyé, qu'il s'est un peu trompé.
Mais je pense qu'il a eu besoin de tout ça. Alors, je pense qu'au milieu du cinéma, tout ça n'est pas plus superficiel que
le milieu
de l'entreprise. C'est fait avec des vrais gens qui pratiquent une activité assez étonnante. De jouer dans des films ou de faire des films ou faire des émissions de radio et tout ça, c'est une activité singulière, mais qui est les gens d'ailleurs souvent sont étonnés, parce que moi je travaille avec beaucoup de non professionnels et les gens sont étonnés de voir que c'est qu'on est des vrais travailleurs quoi. Et que j'emploie souvent le mot d'artisan, très artisan. Il y a un truc de un peu comme un ébéniste, faire une belle
quelqu'un qui fabrique.
Ouais, tout à fait. Et mais je pense qu'il a eu besoin de tout ça. En fait, c'est des vérités successives. Je pense que il y a un problème de synchronicité entre souvent dans la vie, quand dans les couples, ce qui n'était pas possible à un moment peut sembler possible à un autre moment. Ça dépend de ce qu'on a fait du temps qui est passé après la séparation. Est-ce que c'est un temps qui a été nourri par l'amertume, la colère? Si c'est que ça, on n'en fera pas grand-chose. On ne fera rien de l'histoire qui est vécue. C'est dommage parce que elle a été vécue. On a désiré la personne ardemment, puissamment, qu'à un moment on se sépare, ce qui est dingue quand même. Le décalage entre la colère et même parfois la violence qu'il peut y avoir entre deux êtres qui se sont
adorés,
si intensément désirés et adorés, qui ont voulu être ensemble et qui à un moment ne peuvent même plus se voir en peinture. Alors, c'est la vie est construite comme ça, mais il a eu besoin de tout ça, mais je pense qu'à un moment de sa vie, il avait besoin du contenant que représente sa femme puissante, jouée par Marie Drucker, et qu'il n'était plus disponible à la sensibilité et au rapport un peu poétique au monde qu'a le personnage que joue Alba, Alice.
Mais sa nature propre, c'est quand même ça. C'est quand même d'avoir ce regard sur le monde et cette poésie
oui,
sur le monde.
Oui, mais il arrive à un moment où il a réalisé une part de son rêve de sa vie, c'est de devenir un acteur très connu. Donc, il y a quelque chose qui s'est réalisé. Donc, quelque chose qui l'a rassuré. J'en suis capable. Je peux être un mec qui fait des films, qui est reconnu dans sa profession, qui est célébré, qui est récompensé. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ça répare une part du petit enfant blessé, certainement, qui a besoin de cette reconnaissance. Mais il se rend compte à ce moment-là, à 50 ans, que c'est pas tout ça. Donc, tout à coup, cet espace d'acceptation de la sensibilité de l'autre dans une forme d'altérité, et je pense que le personnage que joue Guillaume Canet, c'est quelqu'un qui, voilà, il s'est réalisé professionnellement, il a fait quelque chose auquel il tenait, qui était important pour lui. C'est pas tant de devenir quelqu'un qui est aisé financièrement, mais c'est quelqu'un qui a réalisé son rêve. Son rêve, c'était d'être un acteur, peut-être connu, reconnu, parce qu'en plus, quand on est un acteur connu et reconnu, généralement, du niveau de Guillaume, on fait des films plutôt intéressants, donc on fait son travail à un bon niveau, donc c'est très agréable. Il a été réparé par ça. En accédant à cette notoriété, il y a un endroit de lui qui a été réparé, et donc rassuré. Et il constate, en fait, à ce moment-là de sa vie, et c'est intéressant de faire des films prenant les personnages au moment de déséquilibre, c'est qu'en fait, ça remplit pas tout. Et ça le plonge finalement dans un grand désarroi. Il a eu besoin absolument de la relation très puissante socialement, de l'histoire sociale très puissante avec sa femme, qui est jouée par Marie Drucker. Il en a eu besoin parce que c'était contenant pour lui. Ça lui a permis de s'élever. Avec une femme comme le personnage que joue Marie, il n'y a pas d'espace pour tergiverser, pour réfléchir, est-ce que je vais bien, pas bien. On avance. Et il avait besoin de ça. Et puis, il arrive à ce moment-là de sa vie, il a 50 ans, et il est à un endroit rassuré, mais il n'est pas complètement... Il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Et c'est à ce moment-là où il recroise la route. Je ne dis pas par hasard, parce qu'en fait, même si c'est par hasard, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, comme dirait Claude Lelouch. Il recroise la route d'Alice. Et en fait, à ce moment-là, comme il y a un endroit qui est assez solide en lui, il a l'espace pour être ouvert au rapport au monde poétique, sensible d'Alice. Alors elle croit qu'il va super bien, elle croit que c'est un mec incroyable, que c'est... effectivement, il a fait quelque chose d'incroyable dans sa vie, alors qu'elle, elle a renoncé à des choses, elle a eu peur, et en même temps, elle est incroyablement audacieuse. D'ailleurs, le film, c'est un film de femme audacieuse. Il y a une vieille dame qu'on voit dans le film qui est absolument
merveilleuse,
sublimissime, Lucette, jouée par Lucette Bedin.
J'embrasse Lucette parce qu'elle me regarde tous les matins sur France 2 dans les maternelles. Elle connaissait même le prénom de mes enfants.
Et comment vous savez
ça? Je l'ai croisée. Parce que je l'ai croisée quand j'ai vu le film. Elle était là, elle était dans la salle.
C'est
elle est extraordinaire.
C'est une femme extraordinaire qui avait un tout petit rôle dans Une vie, adaptation que j'ai fait de Maupassant. Et en fait, cette femme m'a sidéré. Elle avait un tout petit rôle et elle était servante et elle lavait Judith Chemla, qui jouait le rôle de Jeanne, quand Jeanne était malade. Et j'ai dû la filmer pendant 23 minutes en train de laver, tellement je trouvais qu'elle lavait bien. Elle lavait Jeanne comme elle laverait une vraie malade, avec attention, avec bienveillance, avec gentillesse. Et je trouvais ça, et je me souviens, j'étais dans un film, il y a la caméra, puis les écrans sont un peu plus loin, et je disais à la script, t'as vu comment elle la lave? Elle lave tellement bien. Mais c'est sublime, t'as vu comment elle la lave? C'est sublime. Et en fait, Lucette, c'est une femme vraiment exceptionnelle, qui a un rapport au monde totalement exceptionnel. Et on est resté en contact, parce que chaque année, Lucette m'envoie un petit mot en me demandant, cher Stéphane, est-ce que vous habitez bien toujours à la même adresse pour que je vous envoie des noix?
Oh.
Et donc, les noix de Lucette sont au milieu de la table du salon. Et,
la scène, elle est au milieu du film aussi. Charnière, elle est incroyable,
exactement,
cette scène.
Charnière, exactement. Il y a le film avant cette scène et après cette scène.
Exactement.
C'est-à-dire que, au moment où on découvre cette scène, nous, spectateurs, et a fortiori les personnages, en tout cas le personnage de Guillaume, il bascule dans autre chose. Mmh. Et il bascule justement parce que Lucette, c'est l'intime absolu, c'est l'ami hyper proche, alors qu'il y a une grande différence d'âge, Lucette est une vieille dame, c'est l'ami hyper proche d'Alice. Et tout à coup, Alice lui confie ce secret, donc c'est une petite vidéo qu'elle a faite de Lucette, où elle lui pose des questions sur sa vie. Lucette raconte une histoire extraordinaire, ça c'est une histoire pour votre...
Il ne faut pas spoiler. Oui, ça c'est
une histoire
géniale.
On ne va rien spoiler, mais ça serait une histoire formidable pour vous.
Ah là là, ben oui, si seulement.
Voilà. Et à ce moment-là, le personnage que joue Guillaume est en connexion avec une audace de vie qui lui fait défaut à ce moment-là.
Absolument.
Il dit, c'est elle, cette dame, qui est l'amie d'Alice. On est à des endroits de vérité, de simplicité, de sincérité, d'authenticité, qui le mettent KO absolument dans le film, tellement c'est... Pour moi, c'est un moment de grâce. Lucette, filmée...
Oh, je crois que c'est pour tous les spectateurs, c'est un moment de grâce.
Un moment de grâce. Et tout à coup, donc après, il va revoir Alice et Lucette. Hein, mais là, c'est plus le même homme. C'est un mec qui, là, à ce moment-là, il a baissé la garde.
Mais il s'est débarrassé de tout le vernis, en fait.
Exactement.
De tous les parasites.
Ouais, exactement.
Et en fait, il s'est rapproché... Et moi, c'est ça que j'adore dans le film, c'est que cette histoire les force à se rapprocher de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, dans ce qu'il y a de plus archaïque, finalement.
Exactement. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui... C'est pas que l'un va dire la vérité à l'autre, c'est qu'ils vont se dire la vérité à eux-mêmes au travers de discussions qu'ils ont avec l'autre, travers desquels on comprend le passé de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont osé faire. C'est un film sur ça, sur qu'est-ce qu'on a osé. Est-ce qu'on est avec la bonne personne à ce moment-là de notre vie? Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on a poussé les bonnes portes? Est-ce qu'on a fait on a pris le bon chemin? Je crois qu'on prend toujours finalement le bon chemin puisque c'est le chemin qu'on a pris.
Voilà.
Après, si à un moment ce chemin nous questionne, que ce soit le chemin, un chemin amoureux, un chemin professionnel, on peut tout à coup dire, ben non, mais en fait, ça me va plus. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire qui vient de passer? Que ce soit 5 ans, que ce soit 2 mois parfois, parce que 2 mois et des histoires d'amour de 2 mois qui nous retournent la tête, qui nous retournent la vie, quoi, mais complètement. Et on les a vécues avec une intensité et parfois même des histoires de beaucoup plus longues après, dont on se souvient à peine. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériau, en fait? Est-ce qu'il faut clore une histoire pour en commencer une autre? Mais ça veut dire quoi, clore une histoire? Est-ce que ça veut dire mettre le mouchoir sur l'histoire, la mettre dans un tiroir au fond et qu'on veut plus la voir? On oublie, chose à laquelle je ne crois pas. Je crois pas qu'on oublie, on n'oublie rien. Ça reste, dans les tréfonds, dans les plis de l'inconscient, ça reste. Ou est-ce qu'au contraire, l'histoire, il faut la regarder en face et dire, OK, je l'ai voulu, cette histoire. J'ai voulu être avec cet homme, j'ai voulu être avec cette femme. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui ne va plus.
Mais ça nous a quand même rempli quelque chose.
Et ça nous a rempli.
Parce que moi, par exemple, je vois mon mari, je sais qu'il est aussi la somme de toutes les femmes qu'il a aimées. Et c'est pour ça que je n'ai jamais de jalousie ou de sentiments négatifs pour les ex des hommes que j'ai aimés. Parce que je me dis, finalement, il y a beaucoup de ces femmes-là que j'aime au travers, finalement, de lui, quoi. Donc finalement, j'ai l'impression quand même que ça nous suit pour toujours. Même si on clôt, même si on met un mouchoir dessus, on est toujours rempli de quelque chose, des gens qu'on a aimés.
Je pense que d'autant plus si on met un mouchoir dessus, ça nous poursuit. Je crois qu'il ne faut pas vivre avec des fantômes. Il faut... voilà, pourquoi j'ai vécu cette histoire? Pourquoi j'ai eu nécessité de cette histoire?
Qu'est-ce que ça dit de moi et qu'est-ce que j'en fais?
Qu'est-ce que ça dit de moi pendant un certain temps de ma vie? Qu'est-ce que ça dit de moi maintenant que cette histoire se termine ou que je quitte ou que j'ai été quitté? Qu'est-ce que ça raconte de ma propre histoire? Donc, si je veux pouvoir continuer et rencontrer quelqu'un et que ça soit encore mieux, après, je pense qu'il y a absolument nécessité de comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est pas simple parce que des fois, il y a tellement de peine, il y a tellement de larmes qu'on a juste la colère, on peut avoir que l'amertume si parfois on a le sentiment que c'est injuste, qu'une séparation est injuste. Mais il faut faire avec. Alors, le film, il s'est passé suffisamment de temps pour que on ne soit plus que la peine, ce soit la peine du moment. Je pense qu'Alice, elle a eu beaucoup de peine.
Ouais, ça sent, elle a beaucoup souffert.
Mais le temps est passé. Elle a reconstruit quelque chose de paisible. Peut-être à ce moment-là, c'est trop paisible, un peu comme sur la route de Madison.
Comme tous les endroits que vous filmez. C'est fou aussi à quel point les lieux dans ce film, je l'ai trouvé, je me trompe peut-être, mais j'avais toujours l'impression que le lieu, c'était l'état de pensée du personnage. C'est-à-dire que c'était... Alors, ça m'a vachement marqué parce que je me disais, cette thalasso, là, ça ressemble tellement à ce qu'il a dans la tête, finalement.
Mais vous ne pouvez pas me faire plus plaisir.
Alors, pour moi, ça a été mais vraiment extrêmement prégnant. Et je me disais, c'est marrant parce qu'on sent qu'il a du recul par rapport à ce qu'il vit, parce que c'est très drôle. Il y a beaucoup de second degré. On a l'impression qu'il se voit être drôle. Et puis, cette espèce d'endroit un peu hors du temps, donc hors saison, qui est tellement significatif du décalage aussi dans lequel il évolue. Enfin, franchement, les lieux dans ce film sont tellement importants.
Mais vous pouvez pas me faire plus plaisir parce que, en fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais été capable ou osé faire auparavant. C'est-à-dire que mes personnages, auparavant, ils s'inscrivaient dans des décors, mais la manière dont je les cadrais dans les décors n'était pas forcément l'expression de leur psyché, en fait. Mmh. Et là, ce personnage qui est à un moment où il se sent écrasé par la vie, il se sent totalement en décalage, la manière dont je l'inscris dans le décor, des fois un peu à la Sampé.
Oui.
Petit bonhomme.
C'est exactement ça, perdu au milieu de cette immensité.
D'un hôtel trop grand ou d'une nature trop grande, de rochers trop hauts, de plages trop immenses, de ciel trop lourd. Mm-hmm. Je traduis effectivement. L'acteur, il a rien à jouer à ce moment-là.
Et puis la lumière aussi, c'est la lumière des endroits.
C'est la Bretagne.
Ouais, c'est ça.
On va tourner la Côte Sauvage. Ça c'est. Et puis après, il y a les cadeaux du cinéma. C'est qu'il faut quand même que le jour, on a décidé de tourner en extérieur. La mer, il y a les vagues, le ciel lourd, mais qui pleuve pas. Enfin, j'ai eu des cadeaux des dieux du cinéma tout au long du film. Là, à ce moment-là, l'acteur, il a plus rien à jouer puisque finalement le cadrage raconte quelque chose de lui-même. Et cet hôtel, on a tourné dans un hôtel pas Quiberon, à Arzon, en fait, un hôtel très grand, le 5 étoiles, qui est un vrai hôtel de luxe, mais qui, par les cadrages, c'est pas la nature même aussi de l'hôtel, mais qui est un hôtel très spectaculaire.
Il est clinique, cet hôtel.
Ben, il traduit par les cadrages, par les couleurs, quelque chose d'un peu clinique. Mmh. Et quelque chose qui est censé lui faire du bien, mais qui finalement le glace un peu quand même. Et comme tout est blanc, les gens se baladent tous en peignoir, en claquettes. Alors là, qu'on soit star de cinéma ou employé de bureau, on est un peu plus au même...
Ça me fait penser, ça me rappelle la scène de la machine à café, j'en dis pas plus, mais c'est fou rire massif, la machine à café avec Guillaume Canet, je vous en dis pas plus. On arrive à la fin de cette discussion.
Déjà.
Mais oui, alors que ça durerait bien des heures. Moi, en voyant ce film, je me suis dit, bon, Stéphane Brisé et Marie Drucker, puisque vous avez donc coécrit, vous croyez aux flammes qui se rallument. Donc, vous croyez que quand on a eu la colère qu'on a évoquée, les histoires qui nous ont marquées, etc., on peut aimer de nouveau?
Je pense que c'est possible. J'ai envie de croire que c'est possible.
On l'a entendu dans l'histoire de Aix.
Oui, mais...
Tout à l'heure.
D'ailleurs, on voit, j'ai le sentiment que une des choses les plus immensément partagées, c'est le fait de vivre quand même avec le fantôme d'une histoire pas terminée ou pas bien terminée ou un peu mal terminée qu'on a eu dans le passé. Alors, on construit sa vie, mais on repense toujours à...
Il faut qu'elle soit un peu en filigrane quand même.
J'ai le sentiment que le film, de fait, déclenche des témoignages, des confidences, et le nombre de personnes qui disent « Ah non, mais c'est vrai, mais là, tu me racontes un truc. Mais moi, j'ai une fille, j'avais 25 ans. Mais t'en as 55 maintenant. Ouais, mais attends, j'avais 25 ans. » Et on a vu au moment où Facebook a surgi, le nombre de personnes qui se sont retrouvées sur des sites, genre des copains d'avant ou sur Facebook, pour retrouver la trace. Mais des fois, on repense à une amoureuse ou à une émotion amoureuse de quelqu'un avec qui on était en CM1. Ah, mais je me souviens de Sylvie Lécuyer, qui était quand même très mignonne. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Et on avait un petit pincement au cœur, on avait un petit béguin. Et ça nous fascine. Puis évidemment, les amours plus construits.
Mais quand l'histoire d'amour a été mal terminée, comme c'est le cas pour Mathieu et Alice, enfin en tout cas, lui n'a pas été élégant, elle a beaucoup souffert, a priori, on se dit, la flamme ne va pas se rallumer. Et en fait, dans le film, si, on comprend très bien pourquoi, parce que c'est comme si c'était deux nouvelles personnes.
Parce qu'ils ont,
fort de tout ce qu'ils ont vécu entre-temps.
Exactement. Mais en tout cas, elle ne s'est pas construite, elle a été blessée, elle ne s'est pas construite sur l'amertume, elle a fait quelque chose de sa vie, elle ne rend pas les autres responsables de ses choix, de ses défaites. Lui, c'est quelqu'un qui a certainement vécu beaucoup dans une forme, en tout cas, d'insouciance et d'inconscience par rapport à cette histoire-là. Il avait tourné la page. D'un coup, il y a quelque chose qu'il est rattrapé par quelque chose. Et cette femme audacieuse qui est... Alice, elle est audacieuse comme Meryl Streep est audacieuse sur la route de Madison. C'est-à-dire qu'elle est qu'un mari bien, elle a des enfants qui ont l'air très sympas, mais il y a quelque chose qui ne va plus à ce moment-là. Et elle croise la route de... Bon, dès que c'est Clint Eastwood en même temps. Mais c'est... Et après l'avoir emmené voir le pont, pourquoi elle l'invite à boire une limonade?
Mais oui.
Parce qu'elle est obligée à ce moment-là de sa vie pour répondre, pour que les questions soient mises sur la table avec honnêteté.
Pour mettre sa vie en perspective.
Elle est obligée de se mettre en danger à ce moment-là. Et c'est exactement ce que fait Alice. Elle n'est pas obligée, parce que c'est le hasard qu'il soit dans cette vie-là. Il ne savait pas qu'elle habitait à Quiberon. Mais elle n'est pas obligée d'envoyer un petit mot à l'accueil en disant « Je sais que tu es là, parce que quelqu'un connu comme toi, dans un patelin comme ça, on sait que tu es là. »
Buvons un café.
Buvons un café ensemble. Et à partir de là, l'histoire démarre.
Merci Stéphane Brisé. On va parler beaucoup dans Aix, justement, de ce que nos histoires passées ont fait de nous, de ces flammes qui se rallument, de ces parfois premiers bisous en CM1 qui nous poursuivent jusqu'à la fin des temps. C'est trop chouette de parler d'amour, de philosopher un petit peu avec vous, Stéphane.
Un plaisir.
À bientôt. Et alors, ça sort quand le
film? Le 20 mars.
Le 20 mars. Donc, vous allez tous aller le voir. C'est une injonction. Parce que vous allez passer un merveilleux moment. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être ému, vous allez pleurer, mais les pleurs qui font du bien.
Et rire aussi.
Et rire énormément. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la machine à café, vous pensez à moi. Merci Stéphane.
Au revoir.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein. Un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.